Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi, à la radio, sur RMC, à la télé, sur RMC Story, canal 23. On est ensemble pendant 3 heures et c'est un vrai plaisir d'être avec vous et d'être également avec Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
On est également avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Bonjour Thierry.
C'est un plaisir partagé, bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes également avec le professeur d'histoire géo et militant CGT, Benjamin Amar. Bonjour Benjamin.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et le journaliste de Marianne, Perico Légas. Bonjour Perico.
Si, je proteste.
Mais vous protestez tout le temps contre tout, donc évidemment, après... ça n'a plus de sens. Au sommaire, aujourd'hui, dans Estelle Midi, tutoiement, question gênante, la visite de Gabriel Attal dans un internat pour élèves en difficulté est-elle un fiasco? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16 et sur l'appli RMC. À midi et demi, on parlera des jeux d'argent qui battent un nouveau record en France. Est-ce déprimant ou réjouissant? À 13h, les faillites de sociétés qui augmentent fortement dans notre pays. Êtes-vous inquiet pour nos entreprises? À 13h30, ce sera le zapping, meilleur d'RMC. À 14h, une taxe de 5 euros pour les visiteurs de Venise. Est-ce qu'il faut faire payer l'entrée des villes touristiques pour limiter leur fréquentation? Et puis, il y aura RMC Conso à 14h30. On parlera des publicités ciblées et on vous dira comment faire, enfin, pour s'en débarrasser.
RMC Estelle Midi.
Midi 4 sur RMC et on démarre tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est la visite de Gabriel Attal à Nice dans un internat pour élèves décrocheurs et primo-délinquants. Le Premier ministre a rencontré des lycéens déjà scolarisés dans cet établissement et visiblement pas très heureux d'y être. Écoutez leur dialogue.
Qui veut témoigner? Vas-y.
Ma mère m'a forcé, c'est tout.
Elle t'a forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer?
Ben, elle m'a dit que j'allais partir en vacances.
Toi, comment ça s'est fait pour toi ici?
Non, moi, je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé. Elle m'a forcé. Elle m'a dit que c'était bien. Et je vois que c'est pas bien, là.
Ça a pas démarré encore. Ça commence ce matin.
Alors, vous aurez remarqué le tutoiement de Gabriel Attal envers les lycéens. En tout cas, l'échange qui était assez lunaire s'est ensuite poursuivi. Oui. Et cet échange, il a continué dans la même veine, hein, Rémi, et il a suscité pas mal de commentaires.
Oui, avec une nouvelle fois un dialogue qui a laissé donc le Premier ministre quelque peu pantois. À l'extérieur de l'établissement, un jeune interne, âgé d'une petite dizaine d'années, demande au Premier ministre s'il est riche. C'est sa première question. Étonné, le chef du gouvernement hausse les sourcils, répond oui, plutôt. Avant d'ajouter que le plus important, c'est de faire des choses qui vous plaisent. L'adolescent ne se démonte pas, lui non plus, et il poursuit. Et vous en pensez quoi de Macron? Là encore, surpris, Gabriel Attal répond « Ah bah moi je travaille avec lui, donc voilà ». Le jeune garçon baisse les yeux et bredouille « Il est méchant ». Le Premier ministre relève « Comment ça ?»« Il est méchant, Macron ?» répète l'interne. Gabriel Attal reprend « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Non, non ?» Avant de conclure « Bon bah en tout cas, ici tu vas apprendre plein de choses ». Malaise palpable.
Alors, tutoiement, question gênante, la visite de Gabriel Attal dans cet internat est-elle un fiasco? Perico Légas, je vous ai vu sourire pendant que Rémi parlait.
C'était touchant. C'est un mérite de la sincérité. Rien n'est préparé. À l'époque, quand une personnalité venait dans une école, c'était moi qui étais choisi pour aller voir le représentant. Donc j'avais médité une question un peu compliquée auquel la personne ne comprenait pas. Mais en tout cas, il y avait une préparation, il y avait un échange. Là, il est allé dans la spontanéité et il a eu, et j'ai un enseignant à côté de moi, il a vu le reflet aujourd'hui du niveau culturel des élèves français. Le petit garçon extérieur.
Les élèves en difficulté, tous les élèves ne sont pas en difficulté.
Non, mais c'est plus que ça, il n'y a pas que tous les enfants, c'est un homme politique, c'est riche. Vous voyez, donc il y a toujours un problème de pouvoir d'achat. Ils sont riches, ils sont puissants et ils sont méchants. Voilà l'image de la classe politique telle que les enfants la restituent. On dit souvent que...
C'est pas des enfants, c'est des ados. C'est pas, ils ont pas 3 ans.
Le petit garçon, il est tout petit, celui qui dit riche et méchant.
Ouais, enfin,
d'accord.
Ados, ouais,
voilà. Et les autres,
Voilà.
Alors,
ils sont au lycée.
Alors Gabriel Attal arrive comme ça, j'allais dire, mais on dirait presque à l'improviste, accompagné par le garde des Sceaux qui a l'air du garde chour, mais du coup on dirait le garde du corps, et s'ensuit un dialogue qui n'apporte rien. Et on voit que, alors si, on voit que finalement ce Premier ministre est très jeune, puisque j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a dit « Tiens, il va encore faire des cours ». Non, j'ai dit « il va en visite ». Et c'était d'un niveau totalement scolaire. Alors, c'est bien, ça veut dire quoi? C'est que le Premier ministre va aujourd'hui dans la réalité de la sociologie française, voir un établissement scolaire. Il est le vrai ministre de l'Éducation nationale. Il va dans un établissement en difficulté. J'aurais attendu de sa part une autre proposition, et je pense qu'il aurait pu... Alors, ils ont quand même des équipes aujourd'hui, avec des cabinets extérieurs qui ont payé une fortune, pour préparer un dialogue et des communiqués. On aurait pu nous faire quelque chose d'un petit peu plus subtil, un petit peu plus lié à l'éducation. Je sens mon collègue, mon camarade Amar, très frustré par cet échange. S'il avait été là, ça aurait été plus...
Je ne vous le cache pas, j'ai été très gêné par cet échange.
Ouais. Pour lui, pour le Premier ministre.
Mais pour tout le monde, en fait. Pour les gamins qui se retrouvent, en fait, un peu jetés en pâture et en difficulté. Et tu vois bien que ces gamins, ils sont en difficulté. Il y a des difficultés de langage, il y a des difficultés de comportement. On les filme comme ça, en difficulté, ce qui ne va quand même pas les améliorer. Ouais. Et ensuite, je trouve Gabriel Attal très en difficulté.
Alors, ce qui m'a le plus choqué,
essayant de faire Estelle, un peu copain-copain avec les gamins. Voilà. Bon.
Ce qui m'a le plus choqué, c'est la familiarité. Le président de la République et le Premier ministre ne peuvent pas tomber dans la famille. Un autre ministre, peut-être, éducation nationale, à la rigueur. Mais là, c'était familier, pour ne rien donner d'intéressant.
Est-ce que le tutoiement, vous a gêné, Benjamin Amar? Est-ce que, quand on est Premier ministre, on tutoie des élèves comme ça?
Non, moi, ça m'a pas du tout gêné. Ce qui m'a gêné, c'est tout le reste de la séquence. C'est-à-dire que le costume de l'autorité dans le monde réel n'allait pas bien à Gabriel Attal. Et il y a eu en fait là un choc entre un monde politique parfois complètement déconnecté et le réel. Ces élèves que j'ai vus, moi, ils ressemblent beaucoup à pas mal d'élèves que j'ai pu avoir ou que je peux avoir dans mes classes. Et il y a d'abord cette séquence qui, effectivement, n'est pas du tout flatteuse pour Gabriel Attal et qui me conforte dans l'idée que trop de com', ça tue la com'. Et qu'au bout d'un moment, la communication, elle peut vous revenir comme un boomerang entre les dents. Et qu'à ce moment-là, moi, je trouve que c'est bien mérité parce que quand on veut incarner une politique, on n'est pas simplement dans la communication. Et puis, alors, il est évident que Gabriel Attal est complètement déstabilisé par les questions des gamins qui sont assez franches et qui, à moi, ne me semblent pas du tout dépourvues d'intérêt. Notamment la réflexion qui tombe effectivement à brûle pour point sur vous êtes riche. Je suis désolé, mais ça reflète une réalité. Entre le pouvoir moyen des Français, le pouvoir d'achat, le revenu des Français et les revenus des représentants politiques, il y a un gap. Et donc la question,
elle a pas lieu d'être.
C'est un gamin. Vous le faites pareil. Il parle de ce qu'il veut.
C'est comme ça qu'il voit la société.
Et en l'occurrence, d'ailleurs, Gabriel Attal est bien en difficulté. Il est obligé de lui dire oui. Donc la séquence est assez intéressante.
Il pouvait lui répondre bien autre chose.
Il
pouvait lui répondre. Regarde, je sais que c'est passé. Mais oui, je suis riche parce que j'ai travaillé.
Ça allait ouvrir un certain nombre, à mon avis, de commentaires derrière.
Mais en tout cas, payé quoi qu'il en soit,
s'il est gêné, c'est parce qu'il sait que derrière, de toutes les manières, ça nourrirait des commentaires, et c'est pour ça qu'il dit oui. Et donc, en l'occurrence, il n'a pas l'esprit d'à propos pour répondre des tas de choses qu'il aurait pu répondre.
Alors qu'il a d'habitude.
C'est pas pareil devant un parterre de journalistes, sur un pupitre, et en face d'un gamin. C'est pas la même chose. Et là, visiblement, il y a des hommes politiques qui sont capables de faire ça, qui ont l'esprit d'à propos, forcé de constater factuellement que c'est pas le cas de Gabriel Attal, parce que c'est face à des élèves et à des adolescents, c'est un exercice de dérapage pas toujours contrôlé.
Thierry Moreau, est-ce qu'il a eu raison, Gabriel Attal, d'aller faire cette visite devant toutes les caméras? Parce qu'en fait, il aurait aussi pu discuter avec les gamins sans caméra. Je veux dire, pourquoi elles sont là, les caméras? Pourquoi avoir besoin de tout montrer en permanence et donc d'arriver à ce type de séquence qui est quand même assez gênant?
Parce qu'il fonctionne comme ça, avec beaucoup de caméras, de transparence et de communication. Ça, on le sait depuis le début, depuis sa nomination. En revanche, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Benjamin, c'est que OK, il a peut-être manqué d'à propos, mais qu'est-ce que tu veux répondre à un gamin qui te dit « Macron est méchant ». C'est pas un argument.
Ah bah, il y a des tas de choses à répondre. Bah,
oui. C'est pas un argument. Non, mais...
on ne parle pas comme ça du président de la République.
Alors voilà,
la première chose. Pour moi, c'est la première chose à dire.
Je me permets, mais Gabriel Attal ne cesse de répéter depuis des jours et des jours, c'est le retour de l'autorité.
Ah ouais.
Et il se laisse parler, il laisse des enfants, parce qu'on parle d'adolescents, mais ce sont des enfants, lui parler comme un copain.
Je te donne juste un exemple.
Le problème, c'est qu'il ne va pas, avec ses petits bras, rétablir une autorité. Des gens qui appellent le président de la République Macron, on les entend à l'Assemblée nationale, on les entend en meeting, on les entend dans la rue, on les entend partout. Donc qu'un gamin qui regarde la télévision, les réseaux sociaux, dise lui aussi Macron en parlant du président de la République, ça me paraît, c'est pas normal, hein, je n'accrédite pas. Mais
merci.
C'est une conséquence de ce qui se passe ailleurs. Ouais. Quand Louis Boyard parle de Macron dans l'hémicycle, ben ça n'aide pas au respect de l'autorité du président.
Là, il dit après, Macron, il est méchant. Bon,
il est pris un peu à son propre jeu. Je pense qu'il a été, comme vous l'avez dit, très désarçonné parce que... être face à une ménagère qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, etc., il a des arguments. Et face à un gamin qui dit « Macron est méchant et je ne suis pas très content d'être là et je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose et vous êtes riche », c'est vrai que c'est très désarçonnant pour un homme politique.
Il n'avait pas les réponses. Moi, quand j'ai des gamins, des élèves
qui appellent une collègue
par leur nom de famille, je les reprends
final,
direct.
Je termine juste en une phrase. Est-ce qu'au final, tout ça va lui coller au basque et va être mauvais en termes de communication? Je ne suis pas sûr que cette séquence va passer à la trappe après une
autre. C'est quand même bien sympa. Il est Premier ministre. Moi, en l'occurrence, c'est pas moi qui vais aller défendre l'outrage à faire Emmanuel Macron, mais il est Premier ministre et on lui dit Macron, excuse-moi, le réflexe, si tu prétends incarner une autorité, c'est direct de dire, attends, excuse-moi, jeune homme, tu vas l'appeler Monsieur Macron. Même moi, qui vraiment ne suis pas un grand fan d'Emmanuel Macron, quand j'ai des élèves qui arrivent et qui disent Macron, je lui dis, attends, t'es gentil, on va mettre les formes et tu vas lui accoler le prénom qui est le sien. Donc, je veux dire, il est Premier ministre, il veut incarner une autorité. En termes de communication, je suis désolé, c'est un naufrage.
Oui, mais alors après, quand on dit, il aurait dit, excuse-moi, tu parles du président de la République un peu mieux que ça, on aurait dit, oh là, là il est hautain.
Très bien, Il n'est pas là pour se mettre au niveau des élèves.
Arrêtez de tous tomber sur Thierry Moreau. Je voudrais qu'on écoute des messages reçus par Rémi Barry. Il y en a beaucoup sur l'appli RMC.
Moi, je veux vous lire ce message de Raoul qui nous dit « Moi, quand j'étais gamin, si j'avais posé la question à un adulte de savoir combien il gagnait, je pense que je me serais pris une bonne baffe. »
Une petite taloche.
Voilà. Et il m'aurait dit « Va faire ton travail, fais tes devoirs, va à l'école, on en reparlera plus tard. »
Bah oui, alors vous préférez exactement. Bayrou qui met une gifle à un gamin parce qu'il est
gagné. Ah bah oui.
Évidemment, je suis pas sûr. 19%.
Voilà, il a failli être au deuxième tour grâce à ça. Donc
Il a perdu 4 points. Il y a très mauvais communicant pourvu que tu t'occupes
de ça. Dans 3 jours, ce sera oublié.
Eh bien, nous verrons. Je voudrais qu'on écoute Florian tout de suite qui nous appelle du Grand Est. Et Florian, il est enseignant spécialisé. Bonjour Florian.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Ça va être très intéressant d'entendre votre commentaire justement sur cette séquence. Vous, en tant qu'enseignant spécialisé, est-ce que vous trouvez que Gabriel Attal a eu la bonne attitude face à ses élèves ou est-ce que c'est un fiasco complet?
Alors moi, je suis un petit peu en train de bouillir parce que là, on tombe un peu sur les gamins. En fait, les gamins, ils sont mis au niveau des adultes.
Exactement.
C'est pas l'inverse?
Non. C'est-à-dire que Gabriel Attal leur a parlé comme des copains. Eux ont répondu comme des copains. Et derrière, il y avait tous les ministres qui se poilaient en disant « Oh, regardez, comme dirait Perico, le niveau social des gamins, c'était un peu « ils venaient aux eaux », en fait.
Tout à fait.
Rien n'est préparé. Moi, ça m'énerve. Rien n'est préparé. Ils n'ont pas de questions à poser. Ils viennent regarder les pauvres gamins. Voilà. Et donc, ils ont pris dans la tête, pardon, j'ai failli être...
C'est vrai, ils viennent un peu aux os.
Ils ont pris la réalité en pleine face, en fait.
Exactement. Voilà, et les gamins, quand ils disent, alors effectivement, ils ont dit Macron au lieu de Monsieur Macron, mais la question, quand ils posent à Gabriel Attal, toi t'es riche, eh ben je suis désolé, mais c'est une question importante pour eux.
Bien sûr.
Ben oui.
Normalement.
Mais c'est vrai que Gabriel Attal ne l'avait pas du tout anticipé parce que manifestement, il connaît assez mal ce milieu. Mais moi, encore une fois, ce qui me gêne, c'est que cette discussion, il aurait très bien pu l'avoir en dehors des caméras et elle aurait pu être extrêmement constructive. Tandis que là, en fait, on retient tout ce qui ne va pas. Alors, si ça se trouve, il aurait pu discuter une heure avec ses gamins et ça aurait pu être formidable et il aurait pu apprendre plein de choses.
C'est lui qui veut faire de la com' en permanence.
Il se croit très bon, donc il pense que ça va être bon.
Le problème, il n'est pas là, je suis désolé. Moi, si je vais en classe écrire un épreuve, les gamins, ils mettent le feu dans la classe.
Ben oui.
D'accord.
Voilà, c'est pas compliqué. Et ils me le disent. Ils me disent, ouais, on s'ennuie. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Donc vous, finalement, pour vous, cette séquence, c'est un fiasco, quoi, Florian?
Mais déjà, où est la ministre de l'Éducation?
Oui, mais je crois qu'elle elle a assez peu de place pour exister. Voilà, on sait tous que Nicole Belloubet, quelque part, elle est à son service.
Elle est un peu
non, mais c'est pas on sait tous. C'est pas on sait tous, c'est c'est elle est ministre de l'Éducation. Ils font les choses. Chaque personne doit faire son travail. Voilà. Gabriel Attal, il fait beaucoup de bruit. Il fait, voilà, sur l'éducation. Il n'y a rien qui avance concrètement.
Écoutez, merci en tout cas, Florian, pour ce coup de gueule.
En fait, on avait voilà, un suite fleuron à cette visite de Gabriel Attal. Parce que l'école alsacienne a été éduquée, c'est l'antithèse du étalé. On a le fleuron de l'école alsacienne qui vient tout d'un coup dans la sociologie, dans le pays réel.
Au moins, il a peut-être appris quelque chose.
Ah ben oui, là, j'espère bien. Il est reparti moins con qu'il est revenu. Ça, c'est qu'il est reparti. Ça.
Alors, on rappelle que l'école alsacienne, c'est l'école dans laquelle allait Gabriel Attal, et en fait, c'est un établissement parisien très très prestigieux.
Ah ben, bien sûr.
Voilà, donc on rappelle ce qu'est l'école alsacienne. Merci beaucoup, Florian. On a également Jean-Michel en ligne, qui est plombier dans le Val d'Oise. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Bonjour. Et vous vouliez aussi réagir sur ce débat, sur la visite de Gabriel Attal dans cet internat, Jean-Michel. Allez-y.
Beaucoup de choses à dire. On sait que je n'ai pas beaucoup de temps. alors, pour revenir sur nos chers ministres présents ce jour-là, moi, j'avais un peu l'impression, la sensation que c'était un peu la sortie aux eaux.
C'est ce qu'a dit Florian.
Venez les copains, on va aller voir comment ça se passe de l'autre côté du périph. Je pense qu'on va bien se marrer. Voilà la sensation que j'ai eue pour parler des ministres. S'il y a eu tutoiement de la part des enfants, moi je dirais plus pour répondre à Perico.
C'est tutoiement de la part du Premier ministre qui nous choque, hein, pas des enfants. Les enfants, c'est normal qu'ils tutoient.
Ah ben non.
Moi, ah ben non.
Pourquoi
non.
Si on les tutoie. Mais attendez, si on les tutoie.
Attends, ça n'a rien à voir, Perico.
Non. Si un enfant est tutoyé à cet âge-là, il n'a pas forcément les paramètres.
Enfin, cet âge-là, ils ont 14 ans.
Si le Premier ministre dit tu, et eux pensent peut-être qu'ils peuvent répondre tu. S'il dit vous.
Alors, moi, je peux vous dire que mon fils qui a 13 ans, demain, il tombe face à un adulte qu'il ne connaît pas, qu'il le tutoie. Mon fils ne va pas le tutoyer.
Nous sommes d'accord, évidemment. Nous sommes d'accord, vous n'êtes pas le seul.
C'est des codes.
Non, mais on est d'accord.
C'est le cas aussi pour mes élèves. Hein.
Voilà.
Je les tutoie, ils me voient, c'est évident.
Oui, voilà, mais ça c'est plutôt une règle, c'est assez habituel. Mais qu'est-ce qui vous a gêné, vous, finalement, Jean-Michel? Vous ne trouvez pas que ça peut être constructif, finalement, cet échange?
Pas du tout. Moi j'étais choqué du manque d'affirmation de M. Attal face au manquement de langage de certains enfants. Enfin, le coup de « oui, t'es riche »,« oui, Macron, il est méchant », mais pourquoi il ne le recadre pas, le gamin, et qu'il dit « mais sèchement ». On parlait de la claque de Bayrou. Bah, Bayrou, bon, alors, il s'est affirmé, peut-être pas de la meilleure des manières qui soit, d'accord. Mais voilà, il a montré un signe d'autorité. Là, M. Attal, il aurait pu mettre le holà et dire bah, « attends, mon coco, t'as 10 ans, on parle pas comme ça, mon gars ».
Sachant que le thème de ce déplacement officiel, c'était le retour de l'autorité.
Et c'est ça, le sursaut de l'autorité.
À l'égard des mineurs.
Bah, on va peut-être en faire un. Ça, c'est un petit loupé.
Au début du stage, il n'a pas commencé le stage.
Mais alors, le thème de ce déplacement devant les caméras, c'était le retour de l'autorité. Il se laisse parler par des adolescents de manière très... Il lui parle mal.
Écoute, moi, je déteste la com et tout ce qui concerne la com.
Incroyable.
Pour moi, c'est une sérénade bien souvent grotesque. Mais là, sur ce terrain-là, tu sais très bien que aborder un thème de l'autorité avec une attitude si chancelante et si bredouillante, tu vois bien que c'est un problème politique.
C'est arrivé une fois Emmanuel Macron, il a recadré le gamin, vous vous souvenez?
Oui.
Le gamin lui parle mal, il dit « dis donc, tu ne me parles pas comme ça ».
Merci beaucoup Jean-Michel, en tout cas, d'avoir été avec nous. Voilà, ça n'a pas plu à Jean-Michel, hein, cette visite Gabriel Attal. On va voir si ça peut lui coûter politiquement. Nous sommes avec notre invité, Benjamin Morel, maître de conférence à Paris 2 Panthéon Assas et docteur en sciences politiques. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Benjamin, est-ce que vous l'avez vous aussi trouvé très gênante cette séquence?
Ah oui, c'est un petit peu en effet le terme que j'utiliserais. C'était assez gênant et en effet
malaisant, comme disent les jeunes. C'était malaisant.
Oui.
Exactement. Et alors, est-ce que ça aurait un impact à long terme, ça, à voir? Je suis pas certain en effet que l'opinion passe pas assez rapidement sur cette séquence, mais néanmoins structurellement, elle peut signifier quelque chose. C'est-à-dire que on a un Gabriel Attal qui a été nommé à Matignon essentiellement dans des objectifs de communication, parce que comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, c'est pas facile de gouverner, etc. Donc il est là pour faire exister un agenda, faire exister des thématiques. Or là, on voit que ça ne prend pas. Je dirais que c'est à la fois révélateur et ça montre que ce qui pouvait faire l'éthos du personnage Gabriel Attal, ce rapport à l'école, à l'autorité qui avait campé quand il était au ministère de l'Éducation nationale, et ben même ça chope. Et donc, quand il essaye de reprendre la main sur ce qui est réputé être ses ses fondamentaux, eh bien, il n'y parvient pas et il fait des erreurs de communication tout de même assez magistrales, ce qui montre que là-dessus, il y a problème.
Est-ce qu'il aurait dû, Benjamin Morel, faire preuve de fermeté? Voilà, il n'arrête pas de nous parler de sursaut d'autorité depuis quelques jours. Et finalement, il est un peu à tuer à toi avec des lycéens et on le sent en difficulté. Est-ce qu'il aurait dû être beaucoup plus ferme, un peu à la François Bayrou ou à la Emmanuel Macron?
Il y avait deux façons de concevoir en termes de communication cette séquence. Soit vous faites du Macron, c'est-à-dire du Macron en mode grand débat. Autrement dit, vous avez des interlocuteurs et vous savez que vous avez la capacité de rebondir suffisante pour retourner votre interlocuteur, retourner le débat. Vous mettre d'abord à son niveau, prendre les questions les plus gênantes, mais en faire des instruments pour avancer ensuite un logiciel et en convainquant votre interlocuteur, convaincre potentiellement le téléspectateur qui va regarder ça derrière. C'est ce que sait très très bien faire Macron, c'est ce qu'il fait au moment du grand débat, c'est pour ça qu'il adore les débats avec les Français en vis-à-vis, etc., sous les yeux des caméras, parce qu'il a vraiment cette capacité. C'est quelque chose qui marque vraiment sa communication dans ce rapport très interpersonnel. Gabriel Attal est moins bon en la matière, et là-dessus il le montre. Il y a en effet des questions fondamentalement problématiques, mais sur lesquelles il aurait pu éventuellement retourner la situation à son avantage, il n'a pas fait. La deuxième façon de concevoir éventuellement cette séquence, c'est d'en faire justement le marqueur d'autorité. Je vais me confronter à des élèves qui sont peut-être en effet des élèves difficiles, je vais en profiter pour expliquer que justement l'autorité est de retour parce que j'en fais preuve. Là non plus, il ne sacrifie pas à ça, il ne le fait pas. Donc, ce faisant, on a une séquence de communication qui ne sait pas trop où elle va et qui finit par dire l'inverse de ce qu'elle était censée dire, c'est-à-dire le retour d'autorité. Et ça, évidemment, c'est très embêtant.
Merci beaucoup, Benjamin Morel.
Péricule, oui, professeur Morel, juste une question. Si je vous dis, est-ce que tu es riche, Benjamin, et Macron est méchant, quel est l'élément de langage que, si vous étiez en situation, il faudrait produire dans ces cas-là? Est-ce que tu es riche? Est-ce que Macron est méchant?
Tout dépend un petit peu de la vision de la séquence que vous envisagez. Si vous êtes dans une séquence autorité à ce moment-là, vous fermez la porte et vous en profitez pour sermonner, pour mettre en avant le fait que, justement, on ne dit pas ça et que vous réincarnez l'autorité. Si jamais vous êtes en mode Macron, vous essayez de retourner ça à votre avantage, de montrer que, tu dis que le président est méchant, mais en réalité, qu'est-ce que c'est que tu te permets de faire ça? Est-ce que justement, ça ne peut pas signifier que là-dessus, il n'y a pas une rupture de l'autorité? Vous en profitez pour sortir votre discours sur l'autorité. Et donc là, on voit que il y a une forme de questions qui étaient des questions qui étaient fondamentalement fort prévisibles, peut-être pas dans leur contenu, mais dans leur ton, sur lequel il n'arrive pas à trouver de répondant. Parce que sur la première vision, il n'est pas Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui, quand même, est très propre à Emmanuel Macron, cette capacité de retournement. Et sur l'autre, il n'y avait pas vraiment d'objectif à la séquence. Et ça, évidemment, c'est embêtant.
Merci beaucoup, Benjamin Morel, en tout cas, d'avoir été notre invité, d'avoir commenté cette séquence de Gabriel Attal en internat. On va terminer avec Agnès, qui nous appelle de Bordeaux et qui est aide-soignante. Bonjour, Agnès.
Oui, bonjour, Estelle.
Bonjour.
Et Agnès, vous l'avez trouvé comment, cette séquence, vous, de Gabriel Attal avec les jeunes?
Alors, le fiasco, ce serait peut-être exagéré, mais c'était limite. Je m'explique. J'estime que, vu le contexte actuel, vraiment le contexte actuel de défaillance, enfin, d'irrespect de jeunes, le ministre, le premier ministre devrait commencer par définir le curseur.
Parce que c'est-à-dire, il n'aurait pas dû tutoyer.
Le tutoiement chez les anglo-saxons n'est pas le même qu'en France. Et on peut vite tourner, comme on a vu hier avec le Premier ministre. Et il devrait, vu le contexte actuel, vraiment poser la base claire.
En fait, ce que vous dites, Agnès, ce que vous voulez dire, c'est concrètement, Gabriel Attal n'aurait pas dû commencer en tutoyant les jeunes, quoi.
Oui, je crois que ce n'était pas adapté. Ce n'était pas du tout adapté. Et puis, c'est des jeunes qui sont en situation difficile, qui arrivent dans un internat le premier jour. Ils n'ont pas assez d'éléments ils n'ont pas assez de retour pour pouvoir donner un avis concret. Donc, on a eu le béaba de ce qu'ils sont, en réalité.
Non mais c'est ça, mais en fait ils n'avaient même pas eu le temps, enfin finalement ils ne pouvaient même pas lui répondre, donc il aurait peut-être dû attendre un petit peu avant de se précipiter. Merci beaucoup Agnès en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir appelé au 32-16. On termine avec des messages, Rémi, j'ai l'impression qu'ils sont tous de la même tonalité,
oui.
Et le résultat de notre consultation sur Twitter.
Ce message de Isabelle notamment qui nous dit, ah oui, le retour de l'autorité prôné par Gabriel Attal, je l'ai bien vu hier, j'en ai même frémi.
Oui, c'est, évidemment c'est de l'humour. Tutoiement, question gênante, la visite de Gabriel Attal en internat est-elle un fiasco?
Oui, c'est un fiasco pour 83% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, on parlera du record du jour, c'est celui des jeux d'argent. Les jeux d'argent ne se sont jamais aussi bien portés en France. Est-ce que c'est réjouissant ou déprimant? On en débat avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 32, on est de retour sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, Benjamin Hamard et Perico Légas. Et on va tout de suite s'intéresser au record du jour. Et c'est celui des jeux d'argent en France. Jeux de grattage, casino, paris sportifs, poker. Ces jeux ont représenté plus de 13 milliards d'euros l'an passé, en hausse de 3,5% en un an. Rémi, quels sont les jeux qui cartonnent le plus?
Mais en fait, tous les types de jeux voient leur produit brut, c'est-à-dire la différence entre ce que dépensent les joueurs, leur mise, et les gains qui sont reversés par les opérateurs, tous leurs produits bruts donc sont en progression. On pourrait dire que ce sont des bénéfices records. Hein. La hausse est particulièrement marquée pour les casinos et pour les jeux en ligne, notamment les jeux de poker en ligne. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs, on les connaît, hein, la Française des Jeux ou encore le PMU, représentent toujours, eux, plus de la moitié de l'activité des jeux en France. Bon, alors, quelques exemples du côté des paris sportifs. Quatre se distinguent particulièrement pour les montants des mises engagées. Le football, 4,4 milliards d'euros de mises engagées en 2023. Le tennis, près de 2 milliards. Dans une moindre mesure, le basket et le rugby. Au total, 3 600 000 personnes ont joué de l'argent en ligne en 2023 en France. La Française des Jeux a, quant à elle, comptabilisé pas moins de 27 millions de joueurs l'an passé. Du monde également dans les casinos. Ils enregistrent un bénéfice record de 2,7 milliards d'euros. C'est une hausse de plus de 8% qui provient à plus de 80% des machines à sous. Une tendance mondiale. Hein. Aujourd'hui, l'Asie et le Moyen-Orient représentent plus de 33% des jeux d'argent à travers le monde, devant l'Amérique du Nord et devant l'Europe.
Alors, le record des jeux d'argent en France, est-ce déprimant ou réjouissant, Thierry Moreau?
C'est le symptôme d'une société qui va mal, parce que dans une société où on ne voit comme seule issue que le fait de gagner de manière miraculeuse à un jeu... c'est quelque chose qui ne va pas bien, c'est-à-dire que ça veut dire que la réussite via l'ascenseur social, via la création d'une entreprise, via une réalisation professionnelle, être bien dans son travail, être bien payé, c'est quelque chose qui est tellement loin de la préoccupation de beaucoup de gens qu'ils se disent, en jouant au loto une petite somme, j'ai peut-être la chance de remporter un gros lot et de m'en sortir. Et donc l'idée de n'avoir que ça comme objectif de sortie et d'amélioration de sa vie quotidienne, je trouve que c'est très grave. Après, il y a l'autre phénomène qui est concomitant à ça, c'est qu'avec notamment les réseaux sociaux et Internet, la facilité de jouer est devenue énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un clic, on arrive à s'en rendre presque compte. Alors, évidemment, c'est débité sur la carte bleue, mais ce que je veux dire,
c'est qu'il y a une que tu aies créé un compte, que tu aies mis ta carte d'identité, c'est
voilà, mais il y a une dématérialisation malgré tout de ces jeux d'argent qui facilite les jeux, et puis l'ouverture à de nombreux jeux, c'était pas le cas avant, qui favorise ça, mais je trouve que c'est assez symptomatique du malaise de notre société en tout cas.
Alors toi, tu parles uniquement d'argent, mais oui, le jeu, c'est aussi le fait de vibrer, l'adrénaline, etc. Et c'est-à-dire que pour un euro d'un ticket à gratter, tu peux rêver finalement pendant un petit bout de temps. Il suffit de gratter un petit peu lentement, mais tu vois, t'as quelques secondes de rêve, et aujourd'hui ces quelques secondes de rêve, on les a. C'est-à-dire pour un euro, t'as un petit peu de rêve, quoi.
Sauf que c'est du rêve, il faut bien le rappeler, pour lequel on a très 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 peu de chance que le rêve se réalise.
Complètement.
C'est juste ça qu'il faut juste rappeler aux gens.
T'as entièrement raison, mais c'est vrai quand tu vois plein de petites mamies au casino, etc. Tu peux jouer pour un centime.
Je suis d'accord.
Donc en fait, tu gagnes moins avec un centime qu'avec 10 euros, ça je suis entièrement d'accord. Mais t'as ce petit, à mon avis, c'est ce petit truc aussi d'émotion qu'on a de moins en moins souvent dans notre société. Je pense qu'il n'y a pas qu'une question d'argent. Est-ce que vous jouez, Perico?
Mes enfants jouent.
Ah bon?
Parce que j'ai un fils qui fait des logiciels et de temps en temps, il aime... Alors, il ne gagne jamais, je vous rassure. Mais voilà, il le fait par...
On n'a pas le droit de jouer à des jeux d'argent à moins de 18 ans, vous le savez.
C'est pour ça. Donc, c'est moi qui joue à sa place. Et de temps en temps, il dit j'ai fait un truc parce qu'il fait des calculs sur les écarts, les probabilités. Et voilà. Mais c'est tout. Mais sinon, non. Mais je connais autour de moi.
Tu grattes jamais un petit ticket comme ça au bureau de tabac?
Non.
Jamais le machine à sous au casino?
Non.
jamais rien.
Des gens
pas un petit tour mignon comme ça de temps en temps.
Je connais des gens de mon milieu et de mon niveau social qui jouent beaucoup et j'en connais même très riches qui ont gagné. Donc vous voyez, c'est pour vous dire. Non, mais ce que me disent les gens qui jouent au loto très souvent, c'est le plus courant. Ils voient alors tout ce que tu as dit, bien entendu, et ils voient ensuite passer des sommes faramineuses, les salaires de Tavares, les déclarations, les footballeurs surtout. Voilà, Mbappé, avec, on est par 200, 300, on ne sait plus.
72.
Oui, mais oui, mais alors le total des footballeurs qui ont cumulé des fortunes, et les gens se disent, est-ce que moi.
Mais c'est un talent, hein, de jouer au football, d'être patron.
Mais
hein.
En même temps.
C'est pas gratter un ticket, hein.
Non, c'est pas un jeu de hasard, mais on aimerait être comme eux et pouvoir dire, on sait que pour une mise. Eh ben, on sait que pour une mise de 2,20 euros, 2,50 euros, 10 euros, on peut avoir, et en plus, les gagnants, on a, l'euro million, 160 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Je donne ça à Marie, il sait plus quoi en faire. Bon, je sais, il partage avec ses camarades.
Il rachète la CGT.
Non, non, c'est pour ça. Non, non, mais c'est vrai qu'on est tenté par ces sommes faramineuses qui nous sont mises sous le nez en permanence de dire, et moi, si je tentais ma chance. Et puis, évidemment, je suis au bout du rouleau. Je suis indigné par ces injustices sociales. Est-ce que moi, j'ai pas... Alors, pour peu qu'on ait un petit peu de superstition, est-ce que la providence, est-ce que la chance va pas frapper à ma porte? Voilà. Pour l'instant-là, c'est la Française des Jeux qui s'en met dans la poche.
Oui, mais l'État est actionnaire à 20%, donc l'État aussi s'en met à la poche.
Oui,
ben, s'en met pas à la poche. Ben oui.
Il y en a 80%.
Ça rentre dans nos impôts.
Oui, il y a 80% que c'est pas l'État. Et ça rentre dans les caisses de.
Mais les jeux sont soumis à la TVA, donc quand t'achètes un ticket de grattage, ça revient dans la caisse de l'État. Benjamin Hamard, est-ce que c'est le fait qu'il y a un record sur les jeux d'argent, est-ce que c'est le symbole d'une société qui ne va pas bien?
C'est le symptôme d'une société où les inégalités explosent et où il y a quand même énormément de gens qui se disent allez, il me reste 100 balles pour finir le mois. Si j'utilise 10 euros ou 5 euros et que j'arrive à gagner 200 ou 300 euros, c'est un pari que je suis prêt à jouer parce que je suis en situation extrêmement pénible. Moi, je me souviens, j'étais allé en Bulgarie il y a 12 ans. Et à ce moment-là, la Bulgarie était vraiment, elle était rentrée dans l'Union européenne depuis peu. Le niveau de vie était très bas et il y avait partout des casinos, des endroits où on pouvait jouer, etc. En fait, plus une société est finalement confrontée à la précarité et aux explosions des inégalités, plus le jeu prend une part importante. Et moi, vous savez, j'ai lu la biographie de quelqu'un qui s'appelle Meyer Lansky, qui est une des légendes et un des dirigeants historiques de la mafia américaine. Et Lansky, qui était né au début du XXe siècle dans une famille juive misérable, raconte toujours que son père lui avait donné 10 cents ou 1 cent pour aller cuire le pain du Shabbat. Et que lui était en chemin, il était tombé sur des joueurs de craps. Et il voyait les billets qui passaient. Il a joué la pièce, il l'a perdu, bien évidemment, et il est rentré, dit-il, il a passé la nuit dehors, il avait tellement honte de rentrer chez lui pour dire ça à ses parents. Il dit toujours qu'il s'est souvenu du silence de mort de ses parents quand ils ont appris la nouvelle. Et il explique ce jour-là, le journaliste lui dit, mais alors donc vous avez arrêté les jeux d'argent? Il dit non. Non, j'en ai fait ma vie, j'ai pratiqué ça toute ma vie. Ah bon, mais comment ça? C'est-à-dire que j'ai compris ce jour-là qu'il y a quelqu'un qui gagne à tous les coups. C'est celui qui organise le jeu.
Bah évidemment.
Et donc, c'est les casinos, c'est les loteries, etc. Vous gagnez quand vous les organisez.
C'est le plus réglementé au monde. Hein. Il n'y a pas des casinos partout, les jeux sont réglementés.
Que dans les villes.
C'est pas l'anarchie.
Non, mais c'est pas l'anarchie, mais pour autant, ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui organisent les jeux.
Évidemment.
La Française des Jeux, les casinos, eux, ils gagnent tous les jours.
Bien sûr.
Alors, justement, tiens, on parlait de jeux à gratter également. On a Marie qui est buraliste. Avec nous et qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Marie.
Bonjour Estelle.
Marie, c'est quoi le plus gros gain qui a été gagné dans votre bureau de tabac?
Alors il y a quelques années, 1 million d'euros au ticket Le Millionnaire.
Ah oui, quand même. Ah oui, non, 1 million
donc,
d'euros,
si vous voulez, oui, c'est énorme. Donc si vous voulez, effectivement, comme je disais à votre collègue, les gens ont l'espoir et c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui gagne dans le quartier, ça donne espoir de jouer et de gagner. Je suis assez d'accord avec le monsieur qui vient de parler. Effectivement, quand il reste peu d'argent à la fin du mois, voire mi-mois, il le dépense dans les jeux pour...
On ne sait jamais, quoi. Mais Marie, les joueurs dans votre bureau de tabac, ils viennent d'abord pour l'argent ou aussi pour l'excitation?
Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que, bon, après, j'avais écouté la dernière fois votre émission sur l'addiction. Il y a effectivement l'addiction, le gain et aussi l'espoir. Hein.
Et Marie, est-ce que sur la devanture de votre bureau de tabac, vous avez marqué ici, un joueur a empoché 1 million d'euros?
Ah oui. 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 Après, moi, je suis pluraliste. Mon but, c'est quand même que les gens viennent jouer chez moi, viennent dépenser.
Oui, mais vous voyez, alors moi, par exemple, Marie, alors vous n'allez pas du tout être d'accord avec moi, mais moi, par exemple, je trouve que ça, c'est une incitation. Et je préférerais, en fait, alors vous n'allez vraiment pas être contente, mais que sur la devanture des casinos, par exemple, quand vous arrivez dans un casino, devant les machines à sous, vous avez les machines à sous, en fait, qui clignotent et il y a marqué, vous pouvez gagner 82, 83 millions d'euros, par exemple, j'ai n'importe quoi, mais il y a toujours les sommes qui sont affichées. Vous aussi, les sommes, elles sont affichées. Alors que moi, j'afficherais plutôt, voilà votre pourcentage de chances de gagner. Vous voyez, histoire que les gens jouent moins. Parce que là, évidemment, quand vous leur dites on a gagné 1 million d'euros, les gens, ils disent attends, je vais mettre un euro et ça se trouve, je vais gagner 1 million.
Estelle, moi, j'ai des charges. Je ne peux pas dire.
Oui, je sais bien. Non, Marie, je sais bien.
Mais vous avez une chance sur X millions de gagner. Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire.
Mais je sais bien, Marie, mais sauf qu'en même temps, on dit. Alors. Et bien sûr, quelqu'un a gagné 1 million d'euros dans votre bureau de tabac, et ça, c'est factuellement, c'est vrai. Mais je veux dire, ça pousse les gens à jouer. Alors pour vous, c'est formidable. Mais c'est vrai que pour la société dans son entier, bah, c'est peut-être pas génial, quoi.
Mais je l'entends. Mais si j'étais boulangère, j'aurais le même discours que vous. En revanche, je suis pluraliste. Non, mais voilà.
Mais je l'entends. Je l'entends, Marie. Et vous avez l'impression que ça marche bien aussi, vous ? Qu'il y a une augmentation du nombre de joueurs ?
Ah oui, il y a beaucoup de... Par rapport à l'année dernière, donc c'est ce que je disais aussi à votre collègue, c'est vrai qu'au niveau du PMU, bon, c'est pas la FDJ, mais bon, c'est pareil, c'est un jeu d'argent, j'ai quand même fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire en un an.
Oui, donc c'est plutôt une bonne chose pour vous que les Français continuent à jouer. Oui, évidemment. Bien. Merci beaucoup Marie en tout cas d'avoir été avec nous, et on a des messages Rémi sur l'application RMC.
Oui, message de David qui nous dit: moi, il m'arrive de jouer de temps à autre, c'est vrai que c'est pour rêver, mais je pense sincèrement qu'il faut faire très attention. On peut très vite tomber dans l'addiction, 1 euro par-ci, 2 euros par-là, on a l'impression de ne pas dépenser beaucoup, mais ça va vite.
Oui, et d'ailleurs, il faut rappeler qu'on peut se faire interdire de casino, ou qu'on peut se faire interdire de jeu, notamment en ligne. Voilà, c'est possible si on voit qu'il y a un problème. Ou
plafonner ses mises aussi.
Voilà, ou si on voit qu'il y a un de ses proches qui est en difficulté, on peut le faire. On est avec Nicolas, qui nous appelle de Fréjus et qui est commercial. Et Nicolas, eh bien, c'est un ancien addict au jeu, justement. C'est ça, Nicolas ?
Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est ça. Et je vous avoue que j'étais en train de rouler comme tous les jours par rapport à mon travail. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ce sujet sur lequel je suis très touché, bah, j'ai voulu appeler. Parce que je suis désolé de vous dire, mais tomber addict aujourd'hui au jeu, c'est plus facile que savoir marcher. C'est-à-dire, vous mettez au début 1 euro, vous faites un petit pari. Je vous entends, vous, donner des petits paris sur le PMU, si je ne dis pas de bêtises, tous les jours. J'entends aux grandes gueules du sport parler de qu'est-ce qu'on va parier ce week-end. Je vous assure que ça peut devenir vite un problème dans la vie de tous les jours. On peut divorcer, on peut perdre son travail, on peut perdre son entreprise. On peut vraiment virer très mal. Et je suis passé très très près de beaucoup de choses. Et sincèrement, je veux juste aujourd'hui, à travers le temps que vous m'accordez, dire aux jeunes qui nous écoutent de faire très attention. Ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas de côté ludique là-dedans. Devenir riche avec le PMU, j'entendais votre collègue juste avant, c'est absolument abject. Parce que les seuls qui vont s'enrichir, bah, c'est soit le PMU, soit la Française des Jeux, soit l'État. Mais c'est jamais les joueurs, sauf exception bien entendu. Et c'est surtout ça que je voulais dire aujourd'hui.
Nicolas, vous, ça a commencé comment votre engrenage ?
Ça a commencé très jeune, je devais avoir 12-13 ans. J'étais issu de la région parisienne, aujourd'hui j'habite Fréjus. J'allais à l'hippodrome de Vincennes avec mon oncle.
D'accord. Père.
Et eux, ils ont toujours su d'ailleurs jouer 2 euros symboliquement tous les dimanches, etc. Vrai. Moi, par contre, j'ai vrillé. Et je peux vous assurer qu'avec, par exemple, un sujet très simple, mais qu'il faudra peut-être à aborder un jour, la publicité aujourd'hui sur les jeux d'argent. Pourquoi est-ce qu'on invite même des gens à jouer, vous, Winamax, si je ne dis pas de bêtises, votre partenaire, et dans la vie de tous les jours, la FDJ, pourquoi est-ce qu'on peut aujourd'hui faire la publicité de quelque chose qui peut rendre des situations absolument dramatiques ? Moi, je pose ce sujet-là aujourd'hui, humblement, et j'espère qu'un jour, on nous autorisera à y répondre.
Non, mais la question, elle mérite d'être posée, évidemment. Nicolas, aujourd'hui, vous en êtes sorti, c'est-à-dire que vous êtes fait interdire de casino, interdit de jouer en ligne ?
Casino, ça n'a jamais été mon truc, puisque j'aime pas le hasard, donc j'essaie toujours de faire
travailler différemment.
Mais par contre, non, on peut jamais dire qu'on est guéri, c'est ça le drame, je tiens à le dire aussi. Dans l'addiction, il y a un cycle. On joue, on essaie de s'en sortir, on tient pendant un moment, et puis il y a un truc qui nous fait basculer, une contrariété, on retombe dans le cycle. Donc en fait, on n'est jamais guéri d'une addiction, c'est absolument faux, et tous ceux qui jouent vous le diront. Donc c'est une vie qui n'est pas sympa, je vous l'avoue. et je la souhaite à personne. Et si j'avais pu remonter le temps, croyez-moi, je changerais ce qui s'est passé dans la mienne, parce que j'ai failli perdre ma femme, failli faire mon travail, etc. Donc j'espère que les jeunes qui nous écoutent prendront pas ça pour un jeu à proprement dit, parce que ça n'en est pas un, vraiment.
Et ben merci beaucoup pour ce témoignage, Nicolas. Merci vraiment de nous avoir dit ce que c'était que d'être un addict au jeu. Il faut faire attention. Voilà, évidemment, et ça on va le rappeler.
Moi je ne joue que les pronostics d'Estelle Denis sur le turf, et voyez, je suis encore besoin de travailler.
Oui, parfois on en a des bons, mais enfin, on a pas de mauvais. Mais c'est le principe du pari. Mais c'était bien que Nicolas nous appelle pour nous parler de son addiction au jeu. Justement, on va terminer avec le résultat de notre question, Rémi, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Ouais. Le succès des jeux d'argent est-il réjouissant ou déprimant?
Ah, maintenant, c'est déprimant. Ouais. Déprimant pour 84% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Oui, donc c'est une très forte majorité. Dans un instant, on aura Anthony Morel qui va venir sur ce plateau nous parler du gendarme du futur. Il va nous montrer la future tenue de gendarme qui est bardée d'intelligence artificielle.
Ah oui.
Et puis ensuite, à 13h, on parlera des faillites de sociétés qui augmentent fortement en France. Redressement judiciaire pour Duralex, tiens. On l'a appris ce matin. Êtes-vous inquiet pour nos entreprises? On en débat avec vous au 3216 et sur l'appli RMC. Appelez-nous, voilà, si vous êtes patron et si vous êtes en difficulté. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Vous êtes à Estelle Denis. Dans quelle ville?
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, j'avais pas vu que c'était repris, on était en pleine anecdote.
Okay, vous étiez
bien parti là. Nous avons Anthony Morel, hein. Et oui, il est 8h51. Anthony Morel, on arrête ça.
On est troublé.
Maréchal des logis Morel aujourd'hui.
Voilà, Maréchal des logis Morel, le gendarme du futur.
RMC, Estelle Midi.
C'est pas Robocop, mais pas loin.
Pas le progrès.
Anthony, la tenue du gendarme du futur. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez un très beau gilet.
Ça me va bien ou pas?
Bah ça vous rend plus musclé.
Oui, c'est vrai, c'est pas dur en même temps. Mais oui, effectivement, ça va arriver. C'est normal parce que alors, c'est un gilet pare-balles. Les gendarmes disent gilet tactique. Ouais. Mais c'est peut-être celui qu'ils vont adopter dans les mois qui viennent. Il est en phase de test aujourd'hui, celui que je vous ai apporté. Donc gilet pare-balles, gilet tactique, on appelle ça parce que vous avez plein de petites poches avec des compartiments et des équipements divers et variés. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Mais surtout, la particularité de ce gilet pare-balles, c'est qu'il est intelligent. C'est-à-dire qu'il va être capable tout seul de détecter et de comprendre qu'une situation est anormale et de réagir en conséquence. Donc en gros, tout se passe en bas à gauche. Là, il y a un petit boîtier comme celui-ci, donc un boîtier électronique, c'est le cerveau du dispositif. Et en gros, dès qu'il se passe un truc, ça va analyser tout l'environnement du gendarme en mission. S'il y a un coup de feu qui est tiré, hop, la veste va l'entendre, elle va comprendre ce qui est en train de se passer.
Bah vous aussi, normalement.
Oui, bah vous aussi. Non, mais c'est mieux. Non, mais vous avez raison.
Il y a ma veste qui a entendu qu'il y a un coup de feu.
Mais non, mais pourquoi? Ou si le gendarme tombe lourdement, elle va le comprendre aussi. En fait, le truc, c'est que la veste, ensuite, elle va réagir toute seule pour, par exemple, prévenir les renforts. Elle va envoyer une alerte, un SOS. Une information géolocalisée au centre de commandement qui va pouvoir savoir ce qui est en train de se passer. La caméra, la bodycam va s'activer en temps réel, donc on va pouvoir voir par les yeux du gendarme et voir ce qui est en train de se passer en temps réel. Et donc ça va faciliter la prise de décision, c'est-à-dire le centre de commandement peut dire voilà, c'est une situation un peu tendue, on va envoyer des renforts. Le gendarme n'a plus besoin de rien faire et les quelques secondes ou les quelques dizaines de secondes qu'on va gagner dans ces cas-là, en fait ça peut être la différence entre la vie et la mort si vous voulez. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. En gros, la veste, elle va prendre en compte tous ces paramètres-là. Elle va aussi, alors il y a plein de petits accessoires à l'intérieur. Vous avez alors des petites loupiottes là, je sais pas si vous avez remarqué.
Ouais.
C'est très coloré. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pour voir la nuit. Vous avez une lampe UV, ça c'est pour analyser la validité des documents d'identité, pour savoir directement si c'est des vrais, si c'est des faux, etc. Donc ça c'est pas mal, on peut le faire directement via la veste. Vous avez un smartphone, smartphone durci, donc qui résiste à tous les chocs, qui est intégré à l'intérieur de la veste. Et tout ça est alimenté, parce qu'il faut de l'électricité
et
évidemment,
la radio,
par une batterie. Bah, ça pèse de 2-3 kilos quand même, hein, effectivement. Ouais. Batterie à l'intérieur qui va alimenter tout ça en électricité avec une autonomie de 24 heures. Bon, après, le soir, il ne faut pas oublier de recharger la veste une fois qu'on rentre de mission. Mais je dois dire que c'est assez bluffant en termes de fonctionnement.
Mais ça, on le verra sur le terrain bientôt ou c'est juste un prototype comme ça pour faire avancer les nouvelles technologies?
Alors, c'est un peu les deux. En fait, c'est un prototype dans le sens où il n'est pas encore déployé complètement, mais il y a un certain nombre de pelotons de gendarmerie qui le testent dès aujourd'hui, du côté de Dammartin notamment, en région parisienne. C'est une start-up suisse qui s'appelle Werin qui a mis ça au point. Ils ont eu la gentillesse de me le prêter. Et donc, ça devrait être déployé d'ici les mois qui viennent, puisque ça a été conçu en partenariat avec la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Et ce qui est
intéressant, c'est que les cas d'usage ne s'arrêtent pas aux gendarmes. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, utiliser ces vestes et elles sont déjà utilisées par les convoyeurs de fonds. C'est-à-dire que là, les convoyeurs de fonds qui se baladent, métier dangereux, hein, évidemment, ils transportent de l'argent, eh bien, ils ont des vestes pare-balles avec exactement la même chose et en plus, ils ont des petits capteurs de stress. Et si on se rend compte que leur stress monte anormalement, qu'ils ont pris une trajectoire un petit peu bizarre, qu'ils se sont arrêtés à un endroit où ils n'auraient pas dû s'arrêter, tout ça là. Bah, exactement, peut-être qu'ils sont menacés. Et ça, la veste va le comprendre. Et donc, la caméra s'enclenche, le micro s'enclenche, et là encore, on peut voir à distance ce qui est en train de se passer sans que eux n'aient rien besoin de faire. Là, s'ils ont les mains en l'air, s'ils sont braqués, la veste va se charger de faire ça. C'est pas mal quand même. Les pompiers aussi vont pouvoir s'en servir, alors sans le côté pare-balles évidemment, mais on va ajouter des capteurs de température pour analyser la température et pour anticiper un coup de chaud éventuel dans un incendie, le pompier qui risque de s'évanouir tout simplement, donc on va le faire sortir plus rapidement pour éviter les accidents. Donc voilà, il y a plein d'utilisations pour ces vestes intelligentes, donc dans les forces de l'ordre, dans la sécurité et dans le sauvetage.
Et est-ce que l'IA à court ou moyen terme va aussi s'inviter dans les armes finalement des policiers ou des gendarmes?
Absolument, alors il y a des choses très intéressantes qui sont en train d'arriver, notamment dans le domaine de la biométrie, c'est-à-dire des armes qui ne vont obéir qu'à leur propriétaire légitime. Donc si par exemple, on vole l'arme d'un policier, on ne pourra pas la retourner contre lui. Avec des systèmes de reconnaissance d'empreintes digitales sur la crosse du pistolet, et même des systèmes de reconnaissance faciale, c'est-à-dire une petite caméra à l'arrière du pistolet. Et donc, si c'est le policier qui s'en saisit, bah, il est reconnu automatiquement, c'est bon. Mais si ce n'est pas lui, personne d'autre ne peut tirer avec son arme. Ça, c'est aussi extraordinaire.
Voilà. Il n'y aura plus d'accident quand on recharge une arme, par exemple, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a
reçu. Désolé, chef.
Tout ça, voilà, c'est ça. OK. Bon, la tenue du futur, du gendarme du futur, voilà, avec Anthony Morel. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce gilet. Anthony, on parle de quoi demain?
Ah, demain, alors rien à voir, on va parler toilettes.
Mais c'est ma deuxième passion.
Mais je sais. J'essaye de toutes les semaines faire soit un sujet aspirateur, soit un sujet toilette. Mais ce n'est pas facile parce qu'au bout d'un moment.
Dopé à l'IA ?
Non, pas du tout. C'est des toilettes anti-adhésives.
Pardon ?
Anti-adhésives.
Je ne comprends pas ce que vous dites.
Bah, ça veut dire que je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails.
Ne rentrez pas. Ne rentrez pas.
Je ne sors jamais, c'est pour ça.
Voilà. Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, 12h50, dans Estelle Midi et bien sûr en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on va parler des faillites de sociétés qui augmentent fortement en France. Êtes-vous inquiet pour nos entreprises? Appelez-nous, tiens, si vous êtes patron, justement, et si vous êtes en difficulté, on vous attend au 3216 et sur l'appli RMC, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.